à tous. Je remercie les étudiants de l'école doctorale d'être présents ce soir et nos autres auditeurs. J'ai pas pu assister à la présentation du programme de l'école doctorale cette année. D'habitude, je vous fais un petit topo concernant les conférences que l'on organise en partenariat avec les trois écoles doctorales sciences humaines et de l'économie de l'Université de Poitiers. Là, Cécile Tréfort représente le CESCM et aussi une des écoles doctorales. Donc, je te remercie d'être là, Cécile. Donc, comme je le disais en aparté avec Monsieur Hartog, d'abord, je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à chez nous. C'est pas difficile. On marquait 1h30 de train, en principe, mais bon, il y a l'emploi du temps, quand même, qui est là. C'est très important pour nous de vous faire de proposer en début d'année une conférence sur l'histoire, sa méthodologie en histoire. L'année dernière, c'est Monsieur Prochasson qui est venu vous parler de l'empire des émotions. Et aujourd'hui, on va avoir une conférence comment on écrit l'histoire. Je pense que même si vous n'êtes pas historien, c'est que c'est très interdisciplinaire, ces trois écoles doctorales réunies. On ne peut pas non plus contenter toutes les disciplines, mais je pense qu'une discipline aussi intéressante que l'histoire peut ne vous apporter, une conférence sur ce sujet ne peut vous apporter que des éléments de méthodologie. Donc je ne vais pas m'étendre, je vais présenter Monsieur Hartog, peut-être donner le micro à Cécile si tu as deux mots à dire. Hein, voilà. Monsieur Hartog, vous êtes historien, vous enseignez historiographie ancienne et moderne à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez écrit un ouvrage, entre autres, qui s'intitule « Évidence de l'histoire, ce que voient les historiens ». En plus, vous avez mis « Évidence de l'histoire » et le sous-titre « Ce que voient les historiens ». Alors, je veux dire, vous avez enfoncé le clou, si je puis dire. Donc, c'est un livre qu'on lit vraiment avec plaisir, qui parle non seulement qui commence à l'Antiquité jusqu'à nos jours, comme on le dit, avec toutes les problématiques liées au regard de l'historien et qui sont aussi des problématiques, si je puis dire, auxquelles on peut réfléchir aujourd'hui avec, par exemple, mais ça sera peut-être dans les questions, cette idée du musée d'histoire de sciences, de l'histoire de France, ça c'est un souhait, l'histoire des sciences, dont on parle beaucoup dans les journaux avec des pétitions, etc. Est-ce qu'on fait un arrêt sur l'histoire ou alors est-ce qu'on laisse le champ libre aux archives? Et vous parlez très très bien aussi de la nécessité de la recherche archivistique. Donc je passe la parole à Cécile, excusez ma maladresse, et puis je suis vraiment très contente que Monsieur Hartog soit là. Je vous remercie infiniment, ça va être une très belle conférence d'introduction à notre thématique.
Merci, je parlerai pas longtemps, simplement je suis très contente au nom des deux autres directeurs des écoles doctorales, donc Yannick Blandin, directeur de l'école Cognition Comportement Langage, William Berthomière, le directeur de l'école Société et Organisation, et moi-même pour l'école Lettres, Pensées, Arts et Histoire. On est très très heureux d'ouvrir ce cycle de conférences sur l'histoire des sciences de l'homme, ce qui est quand même quelque chose de très original. Et je suis contente aussi que ce partenariat avec les écoles puisse continuer et que la présence des doctorants soit effectivement mêlée à un public toujours fidèle, public poitevin qui vient aussi à l'espace Mendès France. Alors, juste un petit élément technique. Normalement, les doctorants doivent signer une liste d'hébergement. D'habitude, on la laisse dehors, mais comme il n'y a pas de table, on va la faire circuler, on la récupérera après. L'autre élément plus intéressant, l'an dernier, donc dans l'école Lettres, Pensées, Arts et Histoire, on avait organisé une journée d'études autour du temps. Monsieur Hartog n'avait pas pu venir pour des raisons de calendrier, et je suis très contente que du coup nous le retrouvions pour parler d'autre chose, mais l'histoire c'est un peu du temps quand même, et je suis donc très heureuse de commencer ce cycle avec lui, donc je préfère lui laisser la parole. Merci beaucoup.
Merci de ces mots d'accueil. Alors, en effet, nous allons parler de l'histoire, et dans ce cycle consacré à l'histoire des sciences de l'homme, l'histoire ayant une longue histoire, on pourrait la prendre à différents moments de son histoire. Et on aurait pu choisir de parler de l'histoire au moment où l'histoire devient une discipline, par exemple, au cours du XIXe siècle. quand elle se professionnalise. Bon, ça aurait été une possibilité. On aurait pu parler de l'histoire, alors au contraire, dans des temps plus anciens, quand elle est fondamentalement, ceux qui la pratiquent sont au service du prince. Et on écrit des histoires. Et il y a bien une production de livres historiques. Bon, qu'est-ce que c'est que ce moment-là ? On pourrait encore remonter plus loin dans l'Antiquité, où l'histoire n'est ni une discipline, ni une profession. Mais où il y a des gens qui s'appellent historiens, qu'on a depuis appelés historiens, et qui ont écrit des œuvres que nous lisons toujours. Il suffit de penser à Hérodote, Thucydide, Polybe, pour ne parler que des Grecs, mais il y en a bien d'autres, et pas seulement dans le monde classique. Mais je vais vous proposer de parler de la situation de l'histoire aujourd'hui. J'emploie ce mot « situation » parce qu'il fait lui-même référence à... je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont des historiens ou qui se destinent à être des historiens. Ce mot fait référence à un texte assez connu de Fernand Braudel, qui est intitulé « Situation de l'histoire en 1950 ». Et cette situation, c'est un mot de l'époque, hein, les situations de Sartre. C'est tout à fait de ces, bien sûr. Et ça renvoie en plus encore, si on remonte un tout petit peu, à Peggy, l'expression de la situation. Situation de la situation de l'histoire et de la sociologie, par exemple. Bon. Alors, situation de Braudel en 1950, c'est une espèce de panorama qu'il donne de comment voit-il l'histoire en 1950 au moment où il devient ce personnage qui va être central dans le champ justement des sciences de l'homme en étant professeur au Collège de France. C'est sa leçon inaugurale au Collège de France. Alors si nous disions aujourd'hui situation de l'histoire en 2010, après, donc 60 ans après. Première remarque, les conditions d'exercice du métier d'historien. Et là, permettez-moi simplement une parenthèse. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des études d'histoire ? Oui, donc un nombre non négligeable. D'accord. Les conditions d'exercice du métier d'historien ont changé depuis une trentaine d'années et changent rapidement sous nos yeux. Il y a une formule commode qu'on utilise en général dans ces situations, dans ces conjonctures, qui est de parler de crise. On a parlé de crise de l'histoire. Par exemple, vous avez un livre de Noiriel sur la crise de l'histoire. Bon, il le met entre guillemets, mais enfin, bref. Ou on a parlé, là aussi, d'histoire désorientée. Et une part de cette désorientation peut se rapporter au fait que nos rapports au temps ont changé, sont en train de changer. Quelle est massivement la transformation, quelles sont massivement les transformations de notre rapport au temps ? Et bien, on peut dire que depuis les années 80, la fin des années 80, 1980, on a un avenir qui se ferme, un passé qui s'obscurcit et un présent qui tend à devenir le seul horizon. Que deviennent alors la place et la fonction de l'historien, c'est-à-dire de quelqu'un qui s'était défini au XIXe siècle, quand l'histoire s'était voulue science, avait revendiqué ce statut de science, et s'était organisée en discipline. Et l'histoire s'était organisée, s'était voulue science sur le modèle des sciences de la nature. Alors que devient cette place et cette fonction quand, brutalement, quand notre rapport au temps demeure, quand celui qui s'était voulu le médiateur savant entre passé et présent, autour de cet objet principal qu'était alors la nation ou l'État, que deviennent cette place et sa fonction dans un monde qui privilégie désormais la dimension du présent, voire du seul présent, qui se proclame globalisé et qui s'est parfois conçu, notamment en Allemagne, dans les années 1980, mais plus aujourd'hui, comme post-national. Donc que devient cet objet de la nation dans un monde qui dit « la nation, c'est terminé ». Bon, vous savez bien qu'en fait, il n'en est rien. Donc on s'est aperçu que ça ne se passait pas comme ça. Est-ce que nous n'avions pas appris que l'historien moderne devait commencer par marquer, poser une nette séparation entre le passé et le présent? L'histoire ne devait être, si vous prenez toutes les proclamations des historiens du XIXe et encore d'une bonne partie du XXe siècle, l'histoire ne devait être que la science du passé. Une science, et alors vous avez quelqu'un, un historien du XIXe qui a poussé au plus loin cette revendication, un historien auquel je me suis intéressé il y a un certain temps, Fustel de Coulanges, qui disait que l'histoire devait être une science pure, et l'historien, et là on retrouve toute cette problématique de l'évidence et de l'œil de l'historien ne devait être, au fond, finalement, qu'un œil déchiffrant les archives dans le silence des archives. Donc il n'y avait pas... L'historien devait s'absenter de l'histoire. C'était la condition de l'objectivité, précisément, revendiquée. Fustel étant celui, encore une fois, qui a poussé au plus loin cette revendication intenable, cette position intenable. Avec Fernand Braudel, que j'évoquais il y a un instant, au milieu du XXe siècle, l'historien de la longue durée, puisque c'était cela qu'il proposait à ce moment-là, l'historien de la longue durée se voyait doté encore d'une position de surplomb par rapport à son objet. En Europe, un des premiers signes que le monde issu de l'après-guerre, de la Seconde Guerre mondiale, était en train de se fissurer, de se lézarder, a été la montée de la mémoire, de la thématique de la mémoire au début des années 1980. Ce phénomène dans lequel nous sommes toujours, était à la fois, je crois, une expression de cette montée du présent que j'indiquais et une façon de répondre à cette montée du présent. La mémoire, c'est du présent. C'est du passé que l'on convoque dans le présent. Et en même temps, se tourner vers la mémoire, faire appel à la mémoire, se soucier de mémoire, c'est aussi une façon d'échapper à la seule domination du présent. Donc je crois qu'il y a les deux dimensions, les deux perspectives dans ce phénomène mémoriel. À grands traits, nous pouvons dire que quatre positions ont été occupées par l'historien au cours des 19e et 20e siècles. Première position, il s'est voulu prophète. Et là, le nom qui vient immédiatement, c'est Michelet, Jules Michelet, qui se donnait, qui s'est présenté comme, c'est le mot lui-même, c'est le mot qu'il emploie, le mot latin, vates, vates, c'est-à-dire devins, hein, prophètes du peuple. Il s'est voulu, et c'est une autre posture possible et effectivement adoptée, il s'est voulu pontife. Alors attention, pas de contresens, c'est pas du tout qu'il se prenait pour le pape. Il s'est voulu pontife, c'est-à-dire au sens étymologique du mot. Là encore latin, c'est-à-dire celui qui fait pont, celui qui relie. Et c'est la position, c'est le mot lui-même, c'est le mot même employé par cet historien, alors que ceux d'entre vous qui font de l'histoire connaissent sûrement, qui est Gabriel Monod, qui a été le fondateur de la revue historique, donc la revue qui existe toujours, hein, et qui, dans le premier numéro de la revue historique, en 1876, justement, revendique cette position de pontife, de faire pont entre l'ancienne et la nouvelle France, c'est-à-dire entre la France d'avant la Révolution et la France d'après la Révolution. Il s'est voulu, et c'est une façon de dire autrement cette position de pontife, sur un mode plus pédagogique, il s'est voulu instituteur. Instituteur, et là le nom qui surgit immédiatement est celui d'Ernest Lavis. L'infatigable producteur d'Emmanuels d'histoire de la Troisième République. Bon, manuel depuis le primaire jusqu'à, bien sûr, l'enseignement secondaire, et puis même les grandes synthèses historiques. Et cette fonction d'instituteur, il faut la prendre au sens fort du mot. Là encore, tous ces gens connaissaient le latin. Bon. Et l'instituteur, c'est celui instituere en latin, c'est celui qui, véritablement, institue la nation, qui lui donne ses fondements. C'est un mot fort. C'est pas simplement celui qui fait la classe aux petits. Donc, se revendiquer comme instituteur, c'est se donner une fonction centrale dans l'édification de la République. Bon. Ça, c'est, disons, l'idéal de l'historien républicain, qui va se trouver fortement mis en question avec la guerre de 14. Bon, il triomphe, cet idéal de l'historien, entre 1870, puisqu'il faut répondre à la défaite de 70, justement, en jouant ce rôle d'instituteur, et 1914 va être une profonde mise en question de ce rôle. Je n'ai pas le temps de m'arrêter à ce point, mais il y a déjà eu un moment de mise en question avec l'affaire Dreyfus. Troisième position, c'est celle de Fustel de Coulanges que j'évoquais il y a un instant. Lui, il a revendiqué l'oubli préalable du présent. Il faut commencer par oublier le présent pour faire de l'histoire. C'est cette image que j'évoquais, que je vous donnais, de l'œil dans les archives, donc un œil qui flotte tout seul comme ça dans les archives. Et l'histoire n'a d'autre fonction, d'autre but, d'autre finalité que la connaissance du passé. Quatrième position, l'historien, et c'est celle que l'on voit émerger après la guerre, justement, de 14, l'historien a insisté sur la nécessité de tenir ensemble les deux extrémités, le passé et le présent, les deux bouts de la chaîne. Et ça, c'est la position des fondateurs des Annales, Marc Bloch et Lucien Febvre. L'histoire, disait-il, science des hommes dans le temps. Et cette science des hommes dans le temps, je le cite, Bloch, a sans cesse besoin d'unir l'étude des morts à celle des vivants. Donc, d'aller du passé vers le présent et du présent vers le passé. Vous savez, au fond, si l'on résume le programme des Annales, du point de vue de qu'est-ce que c'est que le temps, eh bien, c'est justement ce mouvement. L'historien est celui qui va du passé vers le présent et du présent vers le passé. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'historien devrait-il se placer dans le seul cercle du présent ? De ce présent étendu, celui de l'histoire du temps présent, histoire du temps présent qui a maintenant près de 70 ans. Cette histoire, ce présent qui est en fait le territoire ou le nouveau territoire de la mémoire. En 1867, un rapport destiné au ministre sur les études historiques en France se concluait ainsi. L'histoire ne naît pour une époque que quand elle est morte tout entière. Bon, donc, vous savez bien, cette affirmation, hein, c'est pour le ministre. Hein, pour lui, donc, il faut lui dire les choses de manière massive. Bon. Aujourd'hui, on fait plutôt des espèces de phrases à la noix qui ne signifient rien, mais ça, c'est une autre... Les rhétoriques ont changé. L'histoire ne naît pour une époque que quand elle est morte tout entière. Le domaine de l'histoire, c'est donc le passé. Donc là, on enfonce le clou. Le présent, donc 1867, nous sommes sous le Second Empire. Hein. Le présent revient à la politique et l'avenir appartient à Dieu. Bon, voilà, avec ça, vous aviez, les choses étaient claires, le programme était dessiné. Qu'est-ce qu'on écrit aujourd'hui à un ministre de l'éducation ? Est-ce que, pour être admis dans l'espace public, reconnu dans la société civile, reconnu dans les médias, l'historien doit-il se présentifier ? Et se présenter, par exemple, en expert au titre de la mémoire ? Très clairement, cette position, non plus de pontife, hein, au sens que j'ai évoqué, mais cette position de passeur de présent, se trouve occupée, sinon revendiquée, par un nombre non négligeable d'historiens du contemporain ou du très contemporain, comme ils s'appellent, d'historiens du temps présent. Ce sont eux, d'ailleurs, peut-être l'avez-vous remarqué, mais enfin peut-être pas, parce que pour ça il faut avoir une certaine distance d'observation ou de durée d'observation. Ce sont eux désormais qui occupent les premières places, qui jouent les premiers rôles dans l'espace public, puisque ce sont eux qu'on sollicite. On leur demande leur avis sur ceci. Le moment où ceci s'est manifesté de manière claire, ça a été le moment des procès pour crimes contre l'humanité. Touvier, Papon, Barbie. Exemple, la revue 20e siècle, que vous connaissez, là encore, ceux qui font de l'histoire doivent connaître, revue 20e siècle, qui a pris comme nom, comme titre, 20e siècle, alors qu'il s'appelle toujours 20e siècle, bon, ils n'ont pas à changer. Cette revue, elle a été fondée en 1984. Et dans le texte d'ouverture, il était précisé que la revue entendait prendre en charge l'identité du présent. Au même moment, Pierre Nora, que vous connaissez, diagnostiquait, je cite, que le présent est devenu la catégorie de notre compréhension de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et disant que l'historien donc n'est plus du tout le pontife que j'évoquais, ou le pontife de Gabriel Monod, hein, il est, à l'historien, disait-il, il revient d'expliquer le présent au présent. l'historien se place, dit-il, disait-il toujours, entre la demande aveugle et la réponse éclairée, entre la pression publique et la solitaire patience du laboratoire, entre ce qu'il sent, ça introduit la question des émotions, et ce qu'il sait. Vous voyez qu'on est, en effet, dans le seul présent. À côté de cette revendication d'histoire au présent, dans le développement de ces revendications de l'historien en passeur de présent, on peut dire que l'histoire contemporaine a gagné la partie. Elle est devenue pratiquement l'histoire tout entière. Sa place qu'elle a prise dans les universités. On dit, il est évident que il faut des postes pour l'histoire contemporaine, que bon, l'histoire médiévale, ça va bien, l'histoire moderne, ça va bien, l'histoire ancienne, ça va bien. Bon, mais qu'en faut, que c'est là qu'il y a les étudiants les plus nombreux, c'est là qu'il y a les choses à faire les plus nombreuses aussi. Et or, tout ça est très récent. Il n'y a pas longtemps encore, l'histoire contemporaine devait défendre sa légitimité face aux autres périodes. Et vous aviez quelqu'un qui a fait, si j'ose dire, sa carrière là-dessus, c'est René Raymond. René Raymond, quand il a commencé son métier d'historien, il a argumenté fortement en disant « on peut faire de l'histoire contemporaine, c'est bien de l'histoire, c'est pas comme disait le rapport du ministre de la politique ». Bon, donc il fallait défendre la légitimité. Aujourd'hui, c'est une évidence. L'histoire contemporaine, ou l'histoire du temps présent, l'histoire du très contemporain, qu'on l'appelle comme on veut, elle est là et dominante. Elle est devenue pour le grand public l'histoire, ou peu s'en faut. Mais cette incontestable réussite a aussi un prix. Peut-elle, du même coup, échapper aux commémorations? Peut-elle échapper aux commémorations du même? Puisque toute l'époque où le passé était ce réceptacle d'altérité, au fond, le grand moment, justement, de l'histoire avec le roi Ladurie, le Goff, bon, c'était un passé d'une certaine façon exotique. Vous montrez que le passé était un autre pays, comme dit l'autre. Bon. Et cette manière de regarder le passé, qui a été motrice dans les productions historiques françaises des années 1970-80 et au-delà, bon, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, mais on s'est complètement déplacé, et cette attention à l'altérité du passé a été supplantée par une attention à la mêmeté, si je puis dire, au sujet. Hein, et alors, dans ces conditions, est-ce qu'on peut échapper aux commémorations? Est-ce qu'on peut ne pas se trouver enrôlé sous la bannière de l'identité nationale? D'autre part, porté par la vague du présent, est-ce qu'elle ne court pas le risque d'être attrapée par cette vague? Mais les historiens des autres périodes peuvent-ils continuer à faire leur travail comme s'il ne se passait rien, ou comme s'il ne s'était rien passé, en disant, au fond, ça ne nous concerne pas. En disant, nous, ce qui nous intéresse, c'est justement l'accumulation du savoir et de poursuivre cette accumulation du savoir dans nos spécialités. Quel est, si on le formule de la façon la plus générale, le rôle de l'historien? On pourrait dire L'historien est celui qui s'efforce d'apporter un peu plus d'intelligibilité sur le monde et un surcroît de lucidité à ses concitoyens. Pas plus, pas moins que les autres praticiens des sciences humaines et sociales, mais à sa façon, à lui, en historien. Alors, quelles sont les conditions de l'exercice du métier ? Et je voudrais attirer votre attention sur le temps. Le rapport au temps, c'est pour tout un chacun une dimension fondamentale de l'expérience du monde et de soi. Mais cette expérience du temps, elle est en d'une certaine façon redoublée pour l'historien. Puisque le temps, c'est d'abord celui dans lequel il vit et travaille, mais c'est aussi, comme on dit, sa période. Le temps sur lequel il travaille. Et quel rapport se noue entre ces deux temps ? Et si vous prenez l'historien du contemporain, alors la question se pose encore un peu différemment, qu'en est-il dès lors que l'écart entre le temps vécu et le temps étudié se réduit à presque rien ? Que son temps, il l'est doublement. C'est à la fois son temps, celui dans lequel il vit, et son temps, celui sur lequel il travaille. Comment produire du recul et du décalage pour obtenir cet équivalent de ce que produisait l'ethnologue qui faisait appel, c'est la formule de Lévi-Strauss, bien connue, hein, au regard éloigné. Bon, comment produire un effet de regard éloigné ? L'ethnologue de Naguère pouvait créer cet effet de regard éloigné en se déplaçant dans l'espace, en allant loin, en allant dans des sociétés lointaines, dans des sociétés différentes, etc. Comment créer un effet de regard éloigné quand votre objet d'étude est aussi s'inscrit aussi dans le temps qui est le vôtre. Une bonne façon pour l'historien de se faire contemporain du contemporain, c'était l'une des formules employées justement par René Raymond, qu'il faisait se faire le contemporain du contemporain. Une façon de se faire contemporain du contemporain, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de donné, c'est un travail. Une première façon de se faire contemporain du contemporain, c'est de questionner l'évidence massive de ce contemporain. Quel est le travail à mener pour qui veut le faire en historien ? Comment se faire contemporain de son contemporain ? Le trait qui caractérise cette conjoncture des années 80 et suivantes, c'est, je l'ai déjà dit, la montée du présent ou la montée du contemporain. Et c'est vrai en histoire, mais c'est vrai aussi en anthropologie, c'est vrai aussi dans le domaine de la sociologie. Sous le nom du présent, le contemporain est devenu un impératif sociétal et politique, une évidence indiscutable. Et de fait, une pression de plus en plus appuyée, venue des médias, venue de l'édition, venue de ceux qui financent, tant l'argent public que privé, s'exerce pour que les sciences humaines et sociales se tournent davantage vers le contemporain et répondent mieux, plus vite, à ce qu'on appelle la demande sociale. C'est-à-dire, autre manière de le dire, à l'urgence des situations, à l'urgence des émotions, à l'urgence des malheurs, en sachant, comme ça, les mettre en chiffres et en mots. Pour traiter de cette demande, on fait appel à des experts. Et l'historien se trouve alors sollicité à ce titre-là, pour être celui qui, dans des commissions ad hoc, est censé, alors dans certains cas, donner les faits, voire rien que les faits. Bon, par exemple, vous avez eu une commission qui s'est réunie en une dizaine, douzaine d'années en Suisse, dont vous avez peut-être entendu parler, qui voulait faire la lumière sur ce qu'on a appelé l'or des Juifs. Qu'est-ce qui s'était passé avec les banques suisses? Et il y a eu une commission très officielle créée par le gouvernement suisse et par le Parlement. Avec, c'est une commission d'historiens. Mais on leur a fixé un cadre très précis, et dès qu'ils ont voulu en sortir, ça s'est très mal passé, on leur a dit « Vous êtes là pour nous donner les faits. On ne veut rien d'autre. Il ne s'agit pas que vous commenciez à interpréter tout ça ou à avoir des opinions sur tout ça. » Donc on crée, ils étaient bien là, à titre d'experts, pour donner les faits. Ou, autre possibilité, à l'occasion de certains procès, ces procès que j'évoquais, en particulier pour crime ou complicité de crime contre l'humanité, l'historien a été sollicité, ou certains historiens ont été sollicités, mais il ne pouvait occuper qu'une seule place dans le schéma judiciaire français, à savoir la place du témoin. Bon. Ce qui pose des problèmes. Ou bien, alors, ils sont sollicités comme experts de la mémoire. De quoi ce contemporain est-il fait? On peut le baliser, ce contemporain, grâce à une série de mots dont l'usage s'est imposé. Des maîtres mots qui fonctionnent comme autant de supports de toutes sortes de récits fragmentaires. Ces maîtres mots autorisent des prises de parole. Grâce à eux, des torts peuvent être articulés, des crimes dénoncés, des silences nommés, des absences évoquées. Ce sont des mots, maîtres mots ou mots de passe du temps. Et les prononcer suffit désormais sans plus avoir à les expliquer ou à les justifier. Il y a ce que j'appelle le quatuor, formé par mémoire, commémoration, patrimoine, identité, auquel il faut adjoindre au moins le crime contre l'humanité, la victime, le témoin. Ces mots qui forment plus ou moins système, qui n'ont ni la même histoire ni la même portée, renvoient les uns aux autres et sont devenus des repères, des supports pour l'action, des slogans pour faire valoir des revendications, demander des réparations. Inévitablement, ils emportent avec eux toute une charge de quiproquo. L'historien, moins que quiconque, ne peut les ignorer. Mais il doit, plus que quiconque, les questionner. en saisir l'histoire, en tracer les usages et les mésusages, avant de les reprendre dans son questionnaire. Mais sur ce terrain des mots du présent, ce terrain, il se trouve déjà largement investi, il était déjà largement investi par d'autres acteurs. Et l'historien n'est finalement qu'un tard venu sur ce terrain-là. Premier acteur qu'on rencontre, c'est le journaliste. Journaliste dont l'actualité est précisément le pain quotidien. Pourtant, depuis peu, le journaliste se trouve lui-même déstabilisé. Par ces deux formes d'accélération, que vous connaissez bien, que sont l'instantanéité et la simultanéité de tout ce qui circule désormais sans jamais s'interrompre sur la toile. Dans ces conditions, que devient le rôle du journaliste, c'est-à-dire ce rôle de médiateur, chargé de choisir, chargé de mettre en forme, en ordre et en perspective? Est-ce qu'il n'y aurait pas, dans ces conditions, quelque inconséquence pour l'historien, qui est foncièrement lui aussi un médiateur, à vouloir se rapprocher toujours plus du journaliste, au moment même où la place de ce dernier se trouve mise en question? La crise générale de la presse papier témoigne de ces transformations que personne n'est en état de contrôler. Par ailleurs, alors que nous sommes dans un temps médiatique d'historicisation, non plus même quotidienne, mais instantanée du présent, l'historien peut-il lui aussi faire de l'histoire en direct, toujours plus vite, et en quelque façon donner instantanément le point de vue de la postérité? Cette course, perdue d'avance, débouche sur une situation de blocage. Mais si vous renoncez à participer à cette course, qui est une fuite en avant, alors vous risquez de vous trouver exclu de la course. Il y a deux autres occupants de ce même terrain du présent, le témoin et la victime. Nous avons assisté à une intensification de l'usage public du passé. Usage du passé, d'un bon usage du passé. Étant entendu que de ce passé, c'est ce passé récent qui, selon cette autre formule qui a été un moment courante, ce passé qui ne passait pas. C'est-à-dire de ces années relevant de ce que les historiens français venaient de nommer de leur côté l'histoire du temps présent. L'histoire du temps présent et le passé qui ne passe pas, c'est en fait la même période. Or, pour l'établissement de cette histoire, les acteurs sont multiples et les ayants droit sont multiples. Parmi eux, les témoins ont pris une place grandissante. Et vous avez un livre qui s'est de l'historienne Annette Wieworka, qu'elle avait publié, auquel elle avait donné comme titre « L'ère du témoin », l'ère, l'époque, l'ère du témoin. Bon. Et cette ère du témoin, remarquait-elle à juste titre, s'est ouverte en 1961. Pourquoi en 1961 ? Parce que c'est le moment du procès Eichmann à Jérusalem. Et le procès Eichmann, c'est pour la première fois des témoins, c'est-à-dire des victimes, qui étaient appelés à témoigner publiquement. Bon. Et bien entendu, c'est quelque chose qui avait été voulu dans le cadre du procès Eichmann. Témoigner de quoi ? évidemment pas, il n'avait rien à dire sur Eichmann, qu'il n'avait jamais vu, mais de témoigner de ce qu'ils avaient subi. Un témoin devenait alors la voix et le visage d'une victime, d'un survivant qu'on écoute, qu'on fait parler, qu'on enregistre et qu'on filme. Et l'entreprise la plus considérable qui a été menée au cours des 20 dernières années, c'est celle qui a lancé la Fondation Spielberg, qui avait pour objectif de recueillir tous les témoignages. Il y avait cette idée, il fallait tous les témoignages de tous les survivants des camps nazis. Qu'ils aient déjà témoigné ou pas encore témoigné, peu importe, il fallait les avoir tous. Et, disait Spielberg de manière extrêmement naïve, on aurait online, puisque c'était ça l'idée, online, la véritable histoire de la déportation. À partir du moment où vous avez tous les témoignages, alors vous avez la véritable histoire. Dans un tel dispositif, la médiation de l'historien devient non seulement inutile, mais nuisible, puisqu'il vient parasiter ce lien direct entre le témoin, la victime et l'auditeur, le spectateur. Ce face-à-face entre le témoin et le spectateur. Et le spectateur, dans cette perspective, est appelé à devenir lui-même un témoin de témoin, ce que les Américains appellent « vicarious witness », un témoin délégué. Placer les témoins, les vétérans, les rescapés, les survivants en première ligne a été, vous l'avez sûrement remarqué, un trait commun des dernières grandes commémorations de la Deuxième Guerre mondiale. À l'occasion du 60e anniversaire du débarquement, à l'occasion de la commémoration de la libération des camps en 2005, en ces occasions, les hommes politiques parlent de mémoire partagée, se soucient de transmission et de leçons. Une résolution du Parlement européen évoque, je cite, « les enseignements à tirer de l'Holocauste ». Comme si on espérait remettre en action un ancien modèle de l'histoire, c'est-à-dire de l'histoire comme maîtresse de vie, de l'histoire comme fournisseuse d'exemples, qui a été le grand modèle de l'histoire depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Dans ces affaires, les historiens ne sont maîtres ni du calendrier, ni même des questions, ni des termes des débats. Mais ces commémorations, célébrations, ont inévitablement une incidence sur les orientations de la recherche, sur les programmes d'édition, sur la mobilisation médiatique et donc sur la perception de la place de l'historien dans l'espace public. Est-ce qu'il devient une sorte de commentateur autorisé que l'on convoque pour commémorer ces événements à la radio ou à la télévision? En somme, est-ce que sa fonction, c'est d'être un expert équipé d'un casque et d'un micro, chargé d'apporter dans ces commémorations l'équivalent de ce que pouvait être dans un monde de l'édition des notes en bas de page? Le point le plus notable est la place toute récente prise par la notion de victime. À cet égard, les attentats du 11 septembre à New York ont eu un rôle d'accélération et d'amplification. Je vais peut-être aller un peu vite. Oui, je vais sauter un certain nombre de choses autour de la victime pour en arriver. Là, je voudrais arriver... oui, puisque j'évoque le 11 septembre. La victime, aujourd'hui, a été... Cette figure de la victime a été portée par l'extension de la notion de traumatisme. Cette notion est une notion médicale. Formée, c'est d'abord une blessure corporelle qui devient, à la fin du 19e, une catégorie psychologique. Puis, à la fin du 20e siècle, une catégorie de la nosographie psychiatrique. Et maintenant, le traumatisme, c'est un fait social, général, d'ordre général. Comme tel, il institue une nouvelle condition de la victime. Il y a encore un quart de siècle, écrivent deux auteurs, Didier Fassin et Richard Reichmann, le traumatisme n'avait guère droit de cité, en dehors des cercles fermés de la psychiatrie et de la psychologie. Et le traumatisme, derrière le traumatisme, régnait plutôt le soupçon. Notamment quand il s'agissait de soldats, de simulation. Bon. Or, on est passé, en l'espace de quelques années, du doute à la reconnaissance. Le traumatisme est revendiqué et la victime reconnue. Ainsi, on estime à 9000 le nombre de spécialistes de santé mentale qui sont intervenus à New York dans les jours qui ont suivi l'attentat du 11 septembre. Se vérifie là cette mise en avant de la figure de la victime à travers le traumatisme et du même coup aussi cette prévalence du présent. Le traumatisme et la victime ainsi inscrite sont des éléments de cette configuration du présent. Encore, pour définir ce contemporain, le crime contre l'humanité. Défini par le législateur, le crime contre l'humanité a été transmis au juge. Mais le crime, je voudrais juste attirer votre attention sur ce point, le crime contre l'humanité emporte avec lui une temporalité inédite. Le temps ne passe pas. Le crime contre l'humanité est imprescriptible. Imprescriptible veut dire que ce qui est l'ordinaire du temps de la justice, qui est au contraire le temps prescrit, ne s'applique pas. Imprescriptible veut dire que le criminel demeure contemporain de son crime jusqu'à sa mort. Mais nous devenons du même coup les contemporains de ces faits jugés pour crimes contre l'humanité. Songez au procès Papon, où aucun des jurés n'avait connu la guerre. On peut dire que c'est absurde. On jure quelqu'un, ceux qui vont prononcer le jugement n'ont pas connu cette époque. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent en savoir ? En vertu du crime contre l'humanité, le problème ne se pose pas. Papon est resté contemporain de son crime. Bon, c'est bien ce qu'il ne pouvait pas admettre ni comprendre, évidemment. Et les jurés, tous nés après la guerre, deviennent... Et nous tous, d'ailleurs, pas seulement les jurés, nous sommes les contemporains de ce crime. Donc on a là introduit quelque chose qui est une temporalité inédite. Sur ce terrain du contemporain judiciarisé, l'historien rencontre encore un autre personnage qui est le juge. Et les juges se voient aujourd'hui chargés de trancher presque tout. Et on dit aussi de guérir des maux publics et privés, et on parle communément de thérapie judiciaire. Ce qui amène à rouvrir le dossier des rapports du juge et de l'historien et des interférences entre l'historique et le judiciaire. Je pense à la commission, par exemple, j'ai évoqué la commission suisse, mais vous aviez une autre commission qui, elle, n'était pas une commission d'historien, mais la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Bon. Au cours de ses auditions, cette commission fut notamment amenée à distinguer et à reconnaître plusieurs types de vérités. Et parmi elles, ce qu'ils ont appelé la vérité qui soigne, healing truth, c'est-à-dire celle qui résulte de la possibilité pour la victime de dire publiquement ce qu'elle a subi. Et vous avez d'autres commissions chiliennes, argentines, etc., qui se sont créées. Dernier personnage que je voudrais introduire rapidement, c'est le législateur. Les dernières années ont vu, notamment en France, une intensification de l'intervention des politiques dans le domaine de la mémoire et de l'histoire. Je ne vais pas reprendre, on peut le faire dans la discussion si vous voulez, la succession des lois dites mémorielles depuis la loi Guesso, mais ce qui importe, c'est le législateur se trouve investi, ou pensait qu'il était investi, de cette mission qui était sa façon à lui de traduire le devoir de mémoire. La protestation se manifesta jusqu'à ce qu'apparaisse en 2005 une pétition qui s'est appelée « Liberté pour l'histoire », où un certain nombre d'historiens rappelaient qu'il n'appartient ni au Parlement ni à l'autorité judiciaire de définir la vérité historique. Cette démarche n'a pas manqué d'être taxée par certains de défense corporatiste, visant à défendre l'histoire comme l'apanage des seuls historiens professionnels. Vous avez d'un côté l'histoire, toujours plus ou moins officielle, faite par ceux qui ont les moyens de se faire entendre, et de l'autre, la mémoire, qui est le recours des oubliés de l'histoire, des sans-grades, des victimes et de leurs descendants. Or, en France, aujourd'hui, ce n'est plus la Shoah, mais la traite, l'esclavage, et plus largement le passé colonial, qui, pour tout un ensemble de raisons, sont venus au premier plan du débat public. Les historiens ne peuvent l'ignorer, sans renoncer pour autant à montrer qu'on ne peut tout simplement opposer à une histoire toujours suspecte une mémoire toujours juste. Le discrédit de la première ne renforce pas la légitimité de la seconde. Enfin, toutes ces questions sont désormais traitées au niveau de l'Europe. Depuis avril 2007, se trouve sur la table une proposition de décision cadre qui doit encore être votée définitivement par le Conseil de l'Europe. Elle prévoit que l'apologie publique, la négation ou la banalisation grossière des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre seront punissables dans tous les États membres de l'Union. Bon. Mais quelle va être la portée de ce texte ? Que penser de l'obligation d'incriminer la banalisation grossière ? Qu'est-ce que c'est que la banalisation grossière? Où ça commence, où ça s'arrête? Quelles sont les victimes visées et par quels sont les crimes visés plutôt et par qui ont-ils été établis? Il est bien évident que ce qui est en jeu, c'est les crimes à l'Est, les crimes du communisme. C'est ça qui est visé. L'Ouest le découvre avec retard, mais c'est bien là que se situent désormais les conflits de mémoire les plus vifs et les plus compliqués. Là, à l'Est de l'Europe, là qu'il y a le plus de mémoires incompatibles, là que les politiques de la mémoire sont les plus décidées et les plus directement liées à des revendications identitaires et des affirmations nationales. Le fait que l'Union soviétique n'existe plus ne facilite pas la reconnaissance des torts subis et commis. Puisque quand les Ukrainiens disent « Ah, ben c'est l'Union soviétique », il n'y a plus d'Union soviétique, on n'a rien à vous dire. Et la Russie de Poutine s'est très bien jouée de cela. Au milieu de tous ces occupants de bonne foi, de ce terrain, comment l'historien peut-il se faire entendre, lui qui ne se confond avec aucun d'entre eux? Quelle place occuper ou négocier pour l'histoire, alors même que nos expériences quotidiennes sont celles d'un monde qui privilégie le direct, l'interactif, le temps réel, l'immédiat, et non le recul, qui parle plus volontiers de passé que d'histoire, qui fait grand cas de la commémoration et de toutes les techniques de présentification, qui valorise l'affectif plus que l'analyse distanciée, qui fait appel aux témoins, qui oscille entre le trop et le pas assez de mémoire, pour reprendre une observation de Ricoeur, qui est attentif au trauma et qui visite les mémoriaux. La chute du mur de Berlin en novembre 89, n'a pas, si je puis dire, libéré l'avenir. Si à l'Est, le temps a été décongelé, tout le monde était vacciné contre l'avenir radieux. Le futur est encore là, mais alors même que nos moyens de connaissance se sont accrus dans des proportions gigantesques, avec la révolution de l'information, on pourrait dire qu'il est devenu plus imprévisible que jamais. Ou plutôt, on y a renoncé. Plans, prospectives, futurologie ont disparu. Nous sommes complètement concentrés sur la réponse immédiate à l'immédiat. Il faut réagir en temps réel, jusqu'à la caricature chez les politiques. Ou autre attitude, qui revient finalement au même, le futur n'est que trop prévisible, sinon déjà joué. La catastrophe sous de multiples visages est déjà presque là. Nous sommes entrés dans le temps des catastrophes, comme on l'a écrit, car nous sommes confrontés à une irréversibilité dont nous sommes nous-mêmes les initiateurs. De cette transformation de notre rapport au futur témoigne aussi le développement incroyablement rapide qu'a connu le principe de précaution au cours des 20 dernières années, jusqu'à se retrouver inscrit dans la Constitution française. Par l'usage qu'en font d'abord les politiques et puis de proche en proche le moindre responsable de quelque chose, ce principe, qui est la traduction d'une incertitude qui, en l'état des connaissances dont on dispose, ne peut être levée. C'est ça, le principe de précaution très sommairement présenté. Ce principe peut se transformer en simple principe d'abstention, une justification pour ne pas faire au nom du « on ne sait jamais ». De ces transformations rapides, les historiens n'ont pu prendre encore toute la mesure, Il s'efforce de faire avec, un jour après l'autre, au coup par coup. Ils ne sont de loin pas les seuls. Toutes les composantes de nos sociétés se trouvent logées à la même enseigne. Pour l'historien, vouloir se faire contemporain du contemporain, ou dirais-je, guetteur du présent, n'implique en rien qu'il cède aux injonctions du présent, à ce que j'ai appelé le présentisme ambiant. À commencer par celle, forte dans les universités, qu'il n'y a plus désormais d'histoire que du contemporain ou du très contemporain. Comme si, par un rapide renversement de la situation, il n'y avait plus de salut ou de légitimité en dehors d'elle. En revanche, il est important pour tout historien de chercher à comprendre de quelle façon, et si possible pourquoi, le contemporain en est venu à s'imposer à ce point. Quelles ont été, quelles sont les incidences sur la discipline historique de ces changements profonds qui voient l'Europe sortir, sous nos yeux, de ce que Fernand Braudel appelait la grande histoire. De plus, l'histoire, avec un H majuscule, le concept moderne d'histoire, sur lequel l'Europe a vécu deux siècles, peine à saisir le nouveau cours du monde. Toujours là, familier, il n'en a pas moins perdu de son évidence et de son efficace opératoire. Une étude portant sur la fin du XXe siècle montrerait, je crois, un effritement, une éclipse de ce concept, peut-être plus, tandis qu'une série de termes qui sont ces signes de reconnaissance du présent sont venus occuper les premiers rôles dans nos sociétés et dans nos têtes, à commencer par ce quatuor formé par la mémoire, la commémoration, le patrimoine, l'identité, avec le présent en chef d'orchestre. Merci.
Merci, monsieur, cette belle conférence.
Puis-je poser une question sur les lobbies? Je pense à une intervention de Carswell il n'y a pas très longtemps, où un document est apparu, il en a fait foi comme étant un document véritable. Il se positionnait en historien.
Oui. Alors, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, parce que je n'étais pas en France ces derniers temps.
C'est-à-dire qu'il y a un document qui aurait été surnoté par Pétain,
oui,
comme sur les lois anti-juives.
Sur le statut des Juifs.
Voilà. Mm-hmm. On dit, donc, vous voyez, Pétain était l'instigateur définitif parce qu'il a noté, sans aucune vérification, sans aucune graphologique ou rien du tout.
Et qu'est-ce qu'il en est advenu, alors, après? Parce que ça m'a...
Ce qui m'a surprise, c'est qu'on a fait, pendant 24 ou 48 heures, ça était sur le feu de l'événement. Et depuis, comme dirait quelqu'un, ça fait pchit.
Oui, voilà. Oui. Bon, alors, dans ce cas précis, je ne peux évidemment pas me prononcer pour savoir si ce document était annoté de la main de Pétain ou pas. Oui, alors, tout ce qu'on peut en tirer, c'est justement cette espèce d'emballement médiatique, alors que rien, d'après ce que vous dites, aucune des vérifications qui sont élémentaires n'avait été menée. Bon, alors Carlsberg, c'est des choses qu'il connaît. Donc, comment était-il tombé là-dessus? Comment ça lui était? Pourquoi ce document surgissait à ce moment? Enfin, bon, tout ça, je n'ai aucune idée. Hein. Mais le seul point qui me semble-t-il se raccroche, au-delà du fait de savoir si c'est vrai ou pas, bon, ce que je ne sais pas. Et peut-être qu'on ne peut pas le savoir, parce qu'on n'en arrivera pas à montrer que c'est vraiment l'écriture de Pétain, ou pas du tout l'écriture de Pétain, ou que ce jour-là, Pétain tremblait plus que d'habitude. Bon. Le seul point qui se rattache à ce que j'ai dit, c'est cette instantanéité. Et on annonce ça, ça y est, le problème est réglé, on a enfin compris ce qui s'était passé. Bon, et puis deux jours après, c'est fini, on parle d'autre chose. Voilà. C'est bien cette prise totale dans cet instant présent.
Moi, je voulais, d'abord, j'étais très intéressée par votre conférence parce que donc, je suis médiéviste, comme Cécile Treffort ici présente aussi. Et si je me suis intéressée à l'histoire depuis très longtemps, c'était plutôt par la recherche de l'altérité. Et je suis toujours très intriguée par d'ailleurs la majorité des étudiants aussi qui s'intéressent effectivement peut-être plus à l'histoire contemporaine que l'histoire ancienne ou médiévale. Mais je voulais quand même vous dire qu'à Poitiers, et je pense dans beaucoup d'autres facultés aussi, on enseigne avec tout un très grand équilibre encore les anciennes époques, à peu près dans les mêmes proportions. En tout cas, à Poitiers, c'est tout à fait exact, peut-être pas au niveau des maîtrises, et même au niveau des enseignants-chercheurs, je pense qu'il y a un équilibre tout à fait parfait, en tout cas à Poitiers. Et aussi la société des médiévistes a presque 600 membres, et donc c'est quand même des médiévistes historiens de l'enseignement supérieur public, il y en a encore beaucoup. Oui, alors oui. Je reviens encore sur la conception de l'histoire. Effectivement, je pense qu'il y a deux méthodes d'approcher l'histoire, c'est le présentisme, comme vous dites, et effectivement ça doit régner à notre époque, et je n'ai jamais trop compris pourquoi. Ben, je suis tellement tournée vers le passé. Et pour moi, c'est l'étude de l'histoire ou l'histoire de l'art, c'était plutôt effectivement la recherche de l'altérité, même un échappement au monde actuel. Mais là, ça devient un peu trop philosophique. Donc, je cesse. Voilà.
Oui, ben, vous êtes heureuse. Donc. Mais cet équilibre dont vous parlez, il est quand même assez relié à l'agrégation, au concours d'agrégation et au partage entre les quatre périodes. Alors, je ne sais pas où, très bien où on en est désormais, mais le jour où cette affaire ne se présentera plus de la même manière...
Dans les collèges et les lycées, je sais très bien, par contre, que dans les programmes, maintenant, c'est surtout l'histoire contemporaine, oui, voilà.
On voit la même chose se décliner en histoire des sciences. Hein. Je veux dire, certains historiens des sciences du XXe siècle qui font une histoire externaliste disent que l'histoire des sciences au Moyen-Âge, ça ne leur parle pas. L'Antiquité, ça ne leur parle pas. Et vous parlez aussi dans votre ouvrage du continu et du discontinu. C'est une notion que vous pouvez expliciter pour les auditeurs. Donc,
à propos de...
En fait, que l'histoire n'est pas, l'histoire est continue. Donc, ce que vous nous montrez quand même, c'est qu'il y a un arrêt sur image de l'histoire contemporaine. Mais comment les historiens se forment si déjà ils savent pas le grec et le latin. Enfin bon, certains devraient au moins connaître le grec, je pense. Comment se forment-ils s'ils sont obligés de verrouiller des périodes? Et aussi quelque chose qui est très particulier. C'est que quand on fait appel à des historiens, on se rend bien compte, connaissant un petit peu les sujets, qu'ils travaillent que par période, que par. Comment faire cette continuité si on travaille que par période? Est-ce que c'est pas c'est complètement anhistorique ou anti-historique de travailler comme ça?
Oui. Alors là, bon, ça touche à plusieurs choses. Oui, vous savez, c'est toujours très amusant de voir, quand vous réunissez des historiens ou des spécialistes de la littérature, d'ailleurs c'est pareil, hein, qui ont leur... Bon, et alors ils disent, voilà, ça commence avec machin, ou ça commence avec cet événement. Bon, et alors si on parle d'histoire moderne, bon, vous avez évidemment un médiéviste ou une médiéviste qui dira ben pas du tout, ça a commencé bien avant, bon, etc. Donc c'est toujours très amusant et ça fait, bien sûr, ça fait éclater le côté extrêmement artificiel de ces découpages par période. Bon, alors c'est, je pense qu'il faut leur savoir qu'ils ont que ces découpages n'ont pas de grande validité scientifique. Mais ils créent des comportements, ils créent des sous-disciplines ou des avec justement ces associations, ces machins, ces postes, ces revendications, etc. Bon, donc ça a des effets tout à fait réels. Mais quand les effets finissent par empêcher de au fond de penser, alors là, ça devient embêtant. Et notre système universitaire, justement, dans le cas de l'histoire, avec ces quatre périodes, bon, qui sont justement qui n'ont aucune pertinence autre que d'enseignement, autre que qui ont une dimension corporatiste. Ah, ça a une fonction, ça sert à quelque chose. Mais si on change de registre et si on oublie que ce sont des manières d'organiser le travail et qu'on en fait des tables de la loi scientifique, là, ça devient beaucoup plus grave. Bon.
Merci. Oui, c'est une question que vous avez un peu abordée. Ce serait, en termes contemporains, histoire et sociologie.
Oui.
J'aimerais que vous développez, parce que je crois qu'il y a un chercheur qui a écrit, enfin, je ne sais plus comment il s'appelait, on l'a évoqué l'an dernier, que finalement, les bases épistémologiques de ces deux disciplines, actuellement, on peut considérer qu'elles sont à peu près les mêmes.
Oui. Alors, il y a deux aspects dans votre question. Bon, qu'est-ce qui différencie, au fond, la sociologie, l'histoire et l'anthropologie ? Oui, en deux mots. Alors, on peut dire, et ça c'est justement la position de ce sociologue Passeron, on peut dire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas en termes de méthode, en termes d'objet, au fond il n'y en a pas. Ce sont des sciences également historiques, les unes et les autres. Et il disait, dit Passeron, dans ce livre qui s'appelle « Le raisonnement sociologique », c'est une affaire d'auto-appellation. Bon, donc ça rejoint aussi ce qu'on disait, mais là non plus sur la thématique des périodes, mais des disciplines. Bon, ça c'est une première considération, et je partage cette manière de voir. On a des sciences qu'on peut appeler des sciences historiques, ça ne veut pas dire que l'histoire les englobe. Hein, c'est pas l'impérialisme de l'histoire. Les historiens sont toujours accusés d'être impérialistes et de vouloir étouffer tout le reste. Bon, c'est pas de ce point de vue-là que je me place. Le raisonnement, la manière de faire, les méthodes sont largement les mêmes dans le domaine de l'histoire, de la sociologie et de l'anthropologie. Bien. La sociologie et le présent, on peut dire oui, la sociologie, c'est a toujours eu comme objet la société contemporaine. Parce que c'est pour saisir justement cet ensemble qui devenait comme ça occuper de plus en plus de place dans les réflexions que les fondateurs de la sociologie, Durkheim a commencé par lui, bon, se sont mis au travail et réfléchir sur ce qu'est l'anomie des sociétés. Enfin, c'est bon. Donc la sociologie a toujours eu cette vocation, au fond, de s'occuper du contemporain. Mais je pense qu'il y a une forme de sociologie qui est particulièrement qui se préoccupe de l'immédiat. Et alors, en ce sens, pour moi, elle participe de cette extension du présent. Et c'est la sociologie d'Alain Touraine. C'est-à-dire cette sociologie, maintenant pratiquée par quelqu'un comme Wieworka, monsieur, le frère d'Annette Wieworka, c'est la sociologie de c'est l'intervention sociologique. C'est ce qu'ils ont. C'est Touraine qui a organisé ça, qui a un fond. Enfin, conçu cela, l'intervention sociologique, c'est-à-dire que le sociologue soit partie prenante de phénomènes qui sont en train de se produire. Donc c'est pas seulement, alors c'est un peu l'observation participante de l'ethnologue, hein, mais à chaud. D'ailleurs, c'était d'aller participer à tel mouvement, à tel, je sais pas quoi, telle grève, tel événement. Voilà. Alors ça, c'est l'idée qu'il faut être là, dedans, et quand même créer une forme de distance sociologique. Mais c'est pas seulement le contemporain, c'est l'immédiat. Voilà.
Moi, j'avais une question à propos de donc, cette temporalité inédite dont vous parlez, qui finalement réduit enfin, ou fait participer des contemporains à quelque chose de passé. Je me demandais s'il n'y avait pas un mouvement un peu plus général lié à une culpabilisation collective par rapport à des choses passées, mais qui sont finalement prises en charge par une société contemporaine, quitte à ce que, on l'a vu aussi, tel ou tel gouvernement présente des excuses publiques pour quelque chose de passé. Donc comment se fait le transfert? Est-ce que c'est quelque chose qui... parce que vous avez parlé de la victime en tant qu'individu, mais là, c'est peut-être une autre dimension qui est oui. Le champ politique ou je ne sais
oui.
pas.
Oui, oui. Si vous voulez, là encore, moi, justement, je ne suis pas un sociologue, mais je dirais que c'est à mettre en rapport, justement, avec le crime contre l'humanité, avec la temporalité du crime contre l'humanité, avec cette, au fond, cette judiciarisation de l'espace public. Et une des traductions de cette justement de ce que vous dites, de cette culpabilité, c'est justement tous les phénomènes, toutes les déclarations de repentance dont on a fait grand usage ces dernières années, ici ou là. C'est la manière. Donc c'est évidemment lié à cette temporalité tout à fait singulière du crime contre l'humanité. Et alors évidemment, c'est pas exactement la même chose, mais c'est une espèce de transposition du point de vue d'une action publique et dans un certain nombre de cas la reconnaissance par un gouvernement, par un État, de choses qui n'auraient pas dû avoir lieu. Et c'est aussi un mode, une façon de pratiquer le devoir de mémoire. Mais ces trois éléments, crime contre l'humanité, déclaration de repentance, devoir de mémoire, marchent ensemble. S'il n'y avait pas le point de départ du crime contre l'humanité et de cette temporalité qui fait de ce crime qu'on a décidé que ce crime était imprescriptible par nature, c'est une décision. Bon, à la suite, au moment de Nuremberg. Enfin, on n'a pas cette définition par nature, c'est après Nuremberg. Enfin, c'est à partir de Nuremberg qu'on a décidé ce crime contre l'humanité, ce que c'était que le crime contre l'humanité. Il faut qu'il y ait ce point de départ pour que on ait vu surgir ces notions, ces manifestations de repentance, et aussi cette traduction en termes de mémoire sous le vocable de devoir de mémoire.
Merci. J'avais une dernière question, oui. Parce que j'en avais beaucoup. Vous avez parlé des écueils à éviter, en particulier, en effet, la commémoration, la mémoire. Mais on avait entendu monsieur aussi Prochasseau nous en parler l'année dernière par rapport à l'empire des émotions. Mais on se demande, à vous écouter, historien, comment on va s'en sortir parce que je ne sais pas si vous avez entendu le discours de M. Sarkozy aujourd'hui.
Mais, hélas, non.
Donc on s'est dit, bah, écoutez, on n'est pas perdu grand-chose, mais on, voilà, derrière, il y avait un historien qui l'avait écrit, c'était clair.
Ouais.
Mais on est dans une espèce de mémorisation populiste. Et en fait, je crois que le grand public, malheureusement, il y a des étudiants ici, des intellectuels, mais le grand public, il fait quoi de l'histoire ? C'est ça qui est important. Oui. Vous avez parlé aussi de vous avez parlé justement dans votre conférence des témoins, du public, mais vous l'avez dit autrement. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est pas le fait que, bon, le fait que, je pense que là, vous avez donné une leçon, justement, de tous ces écueils à éviter. Alors, d'abord, les étudiants vont se demander comment éviter ces écueils, parce que ils sont quand même là. Je veux dire, même qu'on fasse de l'histoire, enfin, surtout, c'est en fait du contemporain, d'après ce que j'ai compris. Mais comment, quand on est baigné dans les médias, quand on a une information sur Internet, tout de suite, qu'on attrape, quel recul on a? On n'a pas de recul. C'est ça la question. Enfin, moi, c'est ce que je crains. Donc, vous avez un travail énorme à faire, monsieur. Enfin, les historiens.
Oui, oui, oui.
Le débat public, voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du public des...
Si vous, bon, je pense que, justement, il faut considérer que rien de tout ça ne va de soi. Bon, ouais. Et commencer par... questionner l'évidence du contemporain, ce que j'ai essayé de faire dans le temps que nous avions. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut le récuser, le contemporain, mais le questionner. Et par rapport à ce que vous dites, alors le discours de Sarkozy... ça rejoint ce que j'ai essayé de dire très rapidement en finissant. C'est-à-dire que le concept d'histoire, tel qu'il a été élaboré entre la fin du XVIIIe et le milieu du XXe siècle, l'histoire moderne, le concept moderne d'histoire, sur lequel on a vécu, c'est-à-dire cette idée qu'il y avait quelque chose qui s'appelle l'histoire. Et alors, c'est une discipline, mais plus largement, l'histoire est ce qui expliquait tout. Et alors, ceux qui ont poussé au plus loin cette célébration, valorisation de l'histoire, ce sont les régimes communistes. Le marxisme, le matérialisme historique, bon, c'est le culte même, enfin, c'est l'histoire avec H majuscule, ça commence avec Hegel, etc. Bon, très bien. Et enfin, toutes nos sociétés européennes, et largement les États-Unis aussi, ont vécu sur cette idée-là. Bon, il y avait un mouvement de l'histoire, que l'histoire avait un sens ou qu'elle n'en avait pas. Ça, après, on pouvait discuter, mais qu'au fond, elle était là. C'est ça qui est remis en question. Et la montée de la mémoire, c'est une manière. Le fait que la mémoire, que le mot mémoire soit devenu le terme le plus employé désormais. On ne dit plus l'histoire, on dit la mémoire de ceci, là où il y a 20 ans, on aurait dit l'histoire. Alors, ça se marque en particulier dans le discours public, dans le discours politique. Et les hommes politiques voudraient encore d'une certaine manière croire à l'histoire, parce qu'au fond c'était commode. Bon, ça permettait de dire, ben voilà, il est bien évident que... On va vers, il faut faire ça. Bon. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à se servir de ce concept d'histoire, donc ils essayent de parler de la mémoire, mais ils voudraient quand même y mettre de l'histoire, et ça introduit des confusions considérables. Et ça peut conduire alors simplement à des commémoration, des célébrations, des identités, etc. Bon, une espèce de vision, alors là, complètement racornie de l'histoire, justement. Mais c'est l'indice, je me suis pas livré à ce travail, mais si vous preniez tous les discours de Sarkozy depuis sa campagne de 2007, où l'histoire a été présente, où on lui a écrit des trucs, bon, on verrait, je pense, je veux dire, je n'ai pas fait ce travail, je n'ai pas envie de le faire, mais on verrait cette espèce de malaise, c'est-à-dire qu'il voudrait bien pouvoir se servir de l'histoire, ou se réclamer de l'histoire, ou s'autoriser de l'histoire, et qu'en même temps, ça ne marche pas. Mais il ne peut pas y renoncer, donc il est là. Enfin, bon, voilà.
Les étudiants n'ont pas posé de questions.
Ah, si.
Non. Pas. Si. Très bien. Ce sera la dernière, mais...
Bonsoir, moi je voulais... je me demandais si, au final, est-ce que vous ne croyez pas qu'on a affaire à une grande régression, tout simplement un retour en arrière, parce que est-ce qu'on ne reviendrait pas tout simplement au bon vieux sens de l'Antiquité, de l'historien qui doit être juge, comme dit Lucien de Samosate, ou donc sycophante qui doit juger les événements, et au deuxième sens du mot histoire, c'est plus l'enquête, c'est l'arbitre maintenant. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on y revient en quelque sorte ?
Écoutez, non, je ne crois pas. Que vous dites que ces postures que j'ai évoquées en commençant ne sont plus justement adaptées, ne sont plus vraiment tenables, ça c'est sûr. Que l'idée du... l'historien arbitre, ça je sais... Je pense que si vous revenez, si vous prenez l'Antiquité, qu'est-ce que c'est le mot même d'histoire, l'historia, historein, histor en grec, l'histor, c'était pas l'arbitre à mon avis, c'était le garant, celui qui était le garant de quelque chose, le garant. D'une quelque chose qui était convenu entre deux parties. Mais il n'avait pas la capacité d'arbitrer. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de pouvoir d'arbitrage, je pense. En revanche, il était là pour être le garant et garder en mémoire la convention qui avait été conclue entre les deux parties. Voilà.
Bon, merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Hartog.
Merci à vous.
Je vous invite à prendre ces petits livrets où les résumés des conférences sont compilés. Et puis demain, nous avons une journée d'études sur l'histoire du climat, sur le climat. Donc certains intervenants sont déjà arrivés. Je vous invite à venir. Ça sera plus original que ce que vous entendez à la télévision. Il n'y aura pas de difficultés. Merci beaucoup à vous. Bonsoir.